Le débat africain. Alain Foucault.
Qu'est-ce qui peut amener un père, une mère, un jeune garçon, une adolescente à tout quitter, ses parents, ses proches, sa famille, ses enfants, pour prendre les routes les plus risquées du monde? Qu'est-ce qui peut pousser une famille avec des enfants à prendre la mer dans des embarcations de fortune vers une destination totalement inconnue? Comment une jeune femme qui sait qu'elle va être violée, réduite à l'esclavage, peut-elle accepter et intégrer cette triste idée seulement pour quitter son pays? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche aux rescapés du Sahara et de la Méditerranée. Avec sur ce plateau plusieurs rescapés, plusieurs personnes qui ont effectué ce parcours, cette longue traversée du désert du Sahara et de la Méditerranée pour arriver ici en Europe. D'abord, Fatoumata Traoré, migrante d'origine ivoirienne qui a quitté la Côte d'Ivoire en 2017. Bonjour Fatoumata Traoré.
Oui, bonjour monsieur.
Merci d'être là. Notre second invité est monsieur Abdoulaye Thiam, Calibri Calibro pour les intimes, migrant et activiste camerounais, fondateur de la BAS, la Brigade Anti-Sardinard, un mouvement de l'opposition camerounaise. Bonjour Calibri Calibro.
Bonjour Monsieur Foucault, c'est un plaisir.
Merci d'être là. Notre troisième invité vient lui du Mali, Madi Sako, qui est arrivé en France en 2013. Bonjour Madi Sako.
Bonjour Monsieur Alain Foucault et merci pour l'invitation.
C'est difficile de faire parler les migrants, ceux qui sont arrivés sur place. Ils sont nombreux, de plus en plus nombreux, malheureusement, mais ne veulent pas parler. Qu'est-ce qui peut vous décider un matin comme ça de dire « je laisse tout, mes enfants, ma famille, mes parents pour partir » Fatoumata Traoré, qu'est-ce qui t'a décidé à partir? Qu'est-ce qui n'allait pas en Côte d'Ivoire?
C'est parce que ça ne va pas chez nous, c'est pour cela qu'on prend un risque pour venir ici.
Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous à ce point-là? Il y a des gens qui s'en sortent. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous dites « je ne peux plus vivre ici »
Parce que nous on n'a pas eu la chance d'aller à l'école en Côte d'Ivoire. Mmh. Donc en Côte d'Ivoire, si tu n'es pas allé à l'école, ce n'est pas facile que tu t'en sortes.
Mais qu'est-ce qui te fait penser que c'est mieux que tu t'en sortes ici? C'est la télé qui t'a parlé de ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'est mieux en Europe?
Non, moi-même, j'ai pris la décision, moi seule, et puis je suis quittée sans rendre compte de ma maman n'est pas au courant. Et puis je suis sortie comme ça.
Un matin comme ça, je suis sortie,
j'ai laissé mes deux enfants en Côte d'Ivoire.
Tu as deux enfants?
Bien sûr.
En sachant que les risques que tu allais prendre, pourquoi prendre ces risques? Tu sais que tu vas être réduite à l'esclavage, qu'on va te malmener.
Une fois que ça est dans ta tête que tu dois sortir en Côte d'Ivoire, tu mets ça dans ta tête que est-ce que je vais rester sur la route, soit je vais rentrer. Donc tu mets dans ta tête, soit je reste, soit je rentre.
Donc tu acceptes même l'idée que là-bas on peut te violer, on peut te réduire en esclavage.
C'est ça, en Tunisie même c'est plus. Mmh. En Tunisie, les filles qui passent là-bas, franchement... On vous viole, on vous fait n'importe quoi. Tu travailles là-bas, on ne te paye pas, on vous maltraite.
Oui, mais dans le même temps, est-ce que quand tu sais ça, il n'est pas mieux de rester à Abidjan, tout simplement? À Abidjan, personne ne te viole dans ces circonstances-là, personne ne te traite comme ça.
Oui, il y a ça aussi, mais si ça finit dans ta tête que tu veux sortir là, tu n'as pas... Tu ne te crains pas, quoi. Mmh. Soit je rentre, soit je... Mais je reste dans l'eau. Méditerranée.
Carrément. Tu acceptes l'idée de la mort?
Oui, parce qu'on n'a pas autre choix.
Mais c'est bizarre quand même. Quand on regarde les gens à Abidjan, ils ne sont pas si malheureux que ça, au point de préférer mourir plutôt que de rester au pays.
Plus que si tu n'es pas là à l'école, ce n'est pas facile en Côte d'Ivoire.
Oui, mais il y a des travaux, il y a des choses qu'on fait sur place.
Ce n'est pas facile.
Madi Sako, qu'est-ce qui t'a décidé un jour de partir de Bamako pour arriver en Europe?
Le désespoir. Quand tu vis dans un pays, même après des longues années d'études, et que tu n'as pas d'espoir un jour que tu auras une vie normale comme les autres, ça te donne le courage d'aller chercher ailleurs.
Mais est-ce que c'est un peu facile de dire le désespoir? Il y a beaucoup de gens qui restent sur place. Vous n'êtes quand même pas la majorité, parce que lorsqu'on parle des routes de la Méditerranée, tout le monde en Afrique n'a pas envie de venir en Europe. Qu'est-ce qui fait que vous n'ayez pas envie de vous battre comme tous les autres sur place? Est-ce que c'est pas un peu la facilité?
Non, ce n'est pas la facilité. Il y a quelque chose qui est là, ça veut dire, par exemple, quand on essaie de voir la façon dont la jeunesse est traitée dans les pays, et comment s'appelle les dirigeants, ils ont là corrompu tout, même après les études. Sinon, moi, j'étais un ancien étudiant de droit. Après que j'ai vu que ça va pas, il faut y aller, il faut se chercher.
Calibri Calibro, vous êtes un activiste très connu, hein, vous avez souvent interpellé le président Macron dans des rencontres. Vous êtes venu du Cameroun. Abdoulaye Thiam est venu du Cameroun. Qu'est-ce qui vous fait partir du Cameroun? Pourquoi partir du Cameroun?
C'est la même chose que mes copanélistes. C'est la misère. C'est facile à dire qu'il y a des gens qui sont restés qui ne peuvent pas partir.
Il y a des gens qui s'en sortent sur place.
Très peu de gens s'en sortent. Dans un pays comme le Cameroun où l'inflation elle est galopante, je ne sais pas combien de personnes arrivent à vivre avec 36 000 francs. Un pays comme le Cameroun ou comme le Mali ou comme la Côte d'Ivoire, on survit, M. Foka. On ne vit pas. Ce que vous voyez,
Ceux qui sont sur place, quand ils vous écoutent, ils se disent on est là et on aime être là où on est, que c'est peut-être ceux qui ont choisi la facilité qui sont partis.
Essayez de faire un tour dans les ambassades occidentaux et vous verrez que tous les Africains veulent partir.
Vous exagérez là.
Non, c'est vrai. C'est justement parce
qu'il y a un nombre qui veut partir, mais dit que tous les Africains veulent partir.
La majorité des jeunes Africains, la majorité de la jeunesse africaine. Moi, je suis passé par le Niger. J'ai été choqué quand je suis arrivé à Agadez. À Agadez, en une journée, j'ai vu débarquer presque 5000 personnes. En une seule journée, il y a 7 jours par an. Ça veut dire qu'il y a au moins 35000 jeunes Africains qui sortent toutes les semaines pour se retrouver en Europe. C'est une saignée. Pourquoi ces jeunes sortent? Si c'était si facile dans nos pays, je ne pense pas qu'on serait parti. Et il y en a qui n'ont pas ce courage-là. Mais une fois qu'on a le virus du départ, il n'y a absolument rien qui peut arrêter un migrant.
Vous parlez bien du virus du départ, c'est-à-dire que ce n'est pas un virus qui soit le si répandu que cela.
C'est le virus du désespoir.
Alors, on va prendre le cas de chacun un peu. Fatoumata, toi tu es passé par le désert, c'est ça? C'est quoi ton parcours, ton trajet?
Je suis quittée à Abidjan, je suis allée à Tunisie. Bon, en Tunisie, j'ai fait...
Comment tu pars en Tunisie? En avion ou par...
Oui, en avion. Maintenant, j'ai fait presque 2 ans là-bas.
Qu'est-ce que tu faisais pendant les 2 ans sur place?
Bon, je faisais le ménage, femme de ménage en Tunisie.
Et pourquoi tu n'es pas restée en Tunisie?
Parce que quand tu arrives en Tunisie, l'argent ne s'assoit pas. Les populations tunisiennes aussi sont racistes. On vous maltraite. Nous, les filles même qui partent en Tunisie, c'est pas facile. On vous viole, on vous maltraite. Les hommes aussi, pas possible. On les frappe, on les tue à cause des téléphones, on les menace à cause des téléphones.
Alors, quand vous vous rendez compte de cela, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas le chemin retour? Malgré la souffrance que vous connaissez là-bas, pourquoi vous n'êtes pas reparti à Abidjan?
Parce qu'avant d'aller là-bas, tu n'as plus rien. On dit, ils vont te blaguer. Quand tu vas venir en Tunisie, il y a tout ici, tu vas t'en sortir bien. Arrivé en Tunisie, tu vas faire 1 an, tu ne vas pas avoir l'argent. Arrivé en Tunisie, ils vont te dire que l'argent de Tunisie, ça ne sort pas. Entends, tu travailles en Tunisie, mais l'argent de Tunisie, ça ne sort pas.
Ça veut dire qu'on ne peut pas changer l'argent de Tunisie. Non. Vous avez de l'argent que vous ne pouvez consommer que sur place.
Oui. Tu fais 2 ans là-bas, tu n'as rien. Déjà, tu as laissé la famille que tu veux venir me chercher. Toi, tu as fait 2 ans, tu n'as pas envoyé 5 francs à la famille. Donc, c'est là qu'on risque de nos vies. Soit je reste...
Mais pourquoi tu ne repars pas au pays en disant je me suis trompé?
Plus que tu vas te retourner avec, tu n'as pas 5 francs. Tu n'as même pas 5 francs et puis tu as honte.
Oui, mais dans le même temps, quand tu te rends compte que tu ne peux pas rentrer, maintenant, tu trouves les moyens pour partir en Europe. Avec cet argent-là, pourquoi tu n'es pas rentré à Abidjan?
On doit payer pénalité en Tunisie. Tu payes pénalité avant de sortir. Donc l'argent que tu vas prendre pour payer pénalité là, on prend pour traverser en même temps parce qu'on n'a pas autre choix.
Donc c'est le cercle vicieux un peu pour vous quand vous êtes déjà sur place. Oui. Sako, vous avez fait quel trajet vous? Vous avez traversé le désert vous aussi?
Oui, j'ai traversé le désert, c'est-à-dire Bamako, le nord du Mali jusqu'à l'Algérie. Après l'Algérie, la Libye. Après quelques mois en Libye et la mer.
Ça vous a pris combien de temps pour partir de Bamako jusqu'en Europe?
Moi, ça m'a pris 4 mois.
4 mois.
4 mois, à peu près 5 mois comme ça. Parce que je suis parti du Mali le 13 décembre 2013 et je suis arrivé en Italie le 14 avril 2014.
Alors comment ça s'est passé dans les différents pays où vous êtes arrivé? On parle beaucoup d'esclavage en Libye.
Bon, l'esclavage, on parle de l'esclavage en Libye. Il y a bien sûr l'esclavage. Il y a une autre façon de l'esclavage qui est différente de l'ancien esclavage. C'est-à-dire l'esclavage en Libye, c'est quoi? Quand les Libyens, ils voient que tu es un migrant, que tu es un noir, ils savent que déjà c'est un produit, c'est l'argent qu'on en a comme ça. On te croise dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? On te prend, on met dans une cour comme ça, on te ferme à clé, on te donne un portable d'appeler ta famille pour payer un rançon, pour te laisser partir. Ou on te voit sur un chemin que tu n'as plus d'argent, il y a un chauffeur de bus qui s'arrête ou une personne comme ça qui est dans sa voiture, il vient vous voir, monsieur, vous partez où? Je vais là-bas. Il dit, si vous allez là-bas, moi, je peux vous amener à telle somme. Il sait que déjà, vous n'avez plus d'argent. Il vous amène là-bas. Arrivé là-bas, il y a même les trafiquants là-bas. Ils vous donnent lui, il rembourse l'argent qu'il vous a amené.
Après, et vous devenez l'esclave de
cette personne. Voilà, vous devenez l'esclave de cette personne. Vous, mm-hmm. C'est-à-dire, vous allez rester avec cette personne jusqu'à ce que vous allez payer. Même quand vous allez payer, il va vous demander si vous voulez traverser la mer, ça serait avec lui.
Alors, quand vous dites payer, vous travaillez pour payer ou bien, parce que j'ai entendu beaucoup parler de rançon, qu'on appelle vos familles sur place au pays pour leur demander d'envoyer de l'argent. Ça a été votre cas?
Oui, moi, ça a été le cas. Deux fois, mm-hmm. j'ai été pris deux fois. Et la première fois, j'ai payé équivalent de 700 euros, 500 000 francs CFA, mm-hmm. pour qu'on me libère. Et on m'a libéré trois jours après et on m'a pris encore.
Ah.
On a payé 300 euros encore, équivalent de 200 000 francs.
Mm-hmm. Ça veut dire qu'au total, vous avez payé plus de 1000 euros, rien que pour ça.
1000 euros, rien que pour ça.
Avec, en plus, l'argent que vous avez dépensé pour faire la traversée.
Avec l'argent de la traversée.
Alors les gens ont envie de dire, est-ce qu'avec cet argent-là, vous n'auriez pas pu commencer un commerce, par exemple, sur place au Mali? Si vous aviez cette somme-là, pourquoi n'avoir pas dit, je vais me démerder ici à Bamako?
On ne peut pas se démerder avec la somme que je viens de dire. Peut-être même étant étudiant, la bourse que tu gagnes, c'est beaucoup plus que ça. Mmh. Mais ça va où? T'as quel avenir avec ça? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? C'est la question qui se pose. Même ceux qui sont restés, ils sont restés dans quelles conditions? Quand est-ce qu'ils vont partir? C'est ça la question qui se pose. Ce n'est pas la faute à la jeunesse de partir un jour comme ça, de se soir, de dire je vais ailleurs. Je ne sais pas comment je vais devenir. Mmh. Tu vas prendre des risques de prendre les routes les plus dangereuses du monde. Mais quand tu vois que quelqu'un a décidé de partir, il a su que ça ne va pas.
Alors, Calibri Calibro, vous êtes parti de Douala,
Je suis parti de Douala, le Nigeria, le Niger. Mmh. J'ai traversé le désert de la Méditerranée, qui est un véritable mouroir. Je suis arrivé en Algérie, de l'Algérie, je suis ancré en Libye, qui est encore...
Vous avez été réduit en esclavage.
Ouais. Ouais.
Vous êtes parti à combien? Parce que je vois que ça part toujours en groupe.
Le premier jour, nous sommes partis à une cinquantaine et puis il y a eu 10 morts.
Le premier jour.
La traversée du désert, il y a eu 10 morts.
Il y a eu 10 morts qui sont morts dans le désert.
Qui sont morts dans le désert, abandonnés dans le désert. Mm-hmm. Il y a eu ce jour-là, trafic qui a été violé devant nous.
Par les passeurs?
Ah.
Contre qui vous ne pouvez rien faire?
Absolument rien.
Et à ce moment-là, vous ne vous dites pas, aïe, je ferais mieux peut-être de revenir à la maison.
Ouais, tu te dis, je ferais mieux de revenir à la maison, mais comment? Parce que c'est très facile quand on n'a pas vécu ça, on dit mais pourquoi ils sont partis, ils pouvaient rentrer. C'est un cercle où une fois que tu es dans ce cercle, tu ne ressors plus. Le retour est beaucoup plus difficile que l'avancée.
Comment ça?
C'est plus difficile de rentrer que d'avancer.
Mais pourquoi?
Parce qu'on ne te permet même pas de rentrer.
Mais est-ce que ce n'est pas la question de la honte qui vous fait ne pas rentrer? Vous vous dites je suis parti, je ne vais pas revenir, non. Les bras ballants.
Il n'y a pas seulement la honte. Mmh. Ancrer c'est facile, mais ressortir c'est... beaucoup plus difficile.
Alors, dans votre cas, est-ce que vous avez été réduit, vous aussi, à l'esclavage? Ouais. Est-ce qu'on a demandé des rançons à votre famille?
Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Aujourd'hui, ma maman ne vit plus parce qu'elle a presque tout vendu pour pouvoir me sortir de là. Ça a été très difficile. J'ai perdu beaucoup de gens. J'ai enterré énormément de personnes.
Dans le désert?
Dans le désert et surtout en Libye. En Libye, il n'y a pas une journée que je n'enterrais pas les gens.
Mais qu'est-ce qui rend si difficile la Libye? Comment vous l'expliquez-vous?
Aujourd'hui, le Libyen, il est formaté à attraper du noir. J'ai vu un film il y avait longtemps qui s'appelait Chasse à l'homme. C'est exactement ce qui se passe en Libye. Chaque Libyen a une prison chez lui. Chaque Libyen a une prison chez lui. Le noir, pour un Libyen, représente une manne financière énorme. Et c'est pas seulement le Libyen, parce que on accuse le Libyen, mais c'est aussi nos frères noirs qui nous vendent aussi. Le trafic, il est Libyen et Africain et Noir Africain. Il faut le souligner. Et ça représente une manne financière très importante. Par exemple, le monsieur chez qui nous étions, l'un des trafiquants que j'ai dénoncé et que j'ai fait arrêter. Ce monsieur, par semaine, il pouvait avoir au minimum 500 000 euros.
500 000 euros?
Ouais, par semaine.
Juste pour son trafic?
Juste pour son trafic. Mmh. Et c'était l'un des plus grands de Tripoli.
Et comment vous arrivez en Europe à la fin? C'est-à-dire, une fois que vous avez été libéré après toutes ces rançons, je ne sais pas si vous vous êtes sauvé, quand est-ce que vous traversez?
Je suis libéré justement après avoir payé un rançon. J'ai été récupéré par un autre. qui m'a aussi rançonné. Parce que la rançon, c'est une monnaie courante.
C'est permanent.
Non, c'est permanent. Mmh. Il m'a rançonné une première fois. Le jour où il devait me faire partie, il m'a encore rançonné une deuxième fois. J'étais obligé de payer. On est obligé de payer. Parce que beaucoup qui ont essayé de rentrer, la majorité ne sont jamais arrivés. Bon, le but, c'est d'arriver à bon port. Nous avons traversé très difficilement. Nous avons été chargés dans un camion, je me souviens. Un tout petit camion, nous étions 120 à l'intérieur.
120
dans un tout petit camion. Il n'y avait même pas moyen de s'asseoir.
Et il vous amène à la mer.
Il nous amène à la mer. Et là, c'était difficile. Parce que je me souviens que j'ai pris un bateau qui était déjà percé. Un bateau qui coulait. Et ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a personne qui voulait rentrer. Ceux qui disaient même qu'ils ne voulaient pas monter dans ce bateau étaient systématiquement attaqués et par les Libyens et par d'autres migrants. Des migrants qui ont fait 7 ans en Libye et qui a vu son avenir devant lui. Tu lui dis que tu ne montes pas dans le bateau parce que c'est percé. C'est
parce
lui.
Que pour lui, son avenir, c'est forcément en Europe.
Oui, son avenir, c'est forcément en
quel
Europe.
Quel que soit l'endroit en Europe. Oui. Il n'y a pas un point de chute particulier. Vous vous dites, je vais en France ou je vais en Italie, je vais en Espagne.
Ben, chaque migrant a déjà sa destination finale. Sauf que le débarquement, c'est en Italie. Et puis, à partir de l'Italie, on se dispatche un peu partout à travers l'Europe. Mais on dit, pourquoi avec cet argent? Si tout le monde devient commerçant, qui va être client?
Oui, mais dans le même temps, il n'y a pas besoin que d'être commerçant. Il y a des choses qui peuvent être créées sur place. On ne peut pas non plus dire que tout soit noir. Il y a peut-être du désespoir, mais est-ce qu'il n'y a pas chez un certain nombre de jeunes cette facilité de se dire « c'est mieux ailleurs, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin ».
Monsieur Alain Foucault, quand vous êtes jeune et qu'à 35 ans, vous n'avez pas d'avenir ou à 30 ans, vous n'avez pas d'avenir, je pense que le seul avenir, c'est devant. Quand vous avez autour de vous des voisins qui sont partis, qui ont pu construire une maison pour leur maman ou pour eux, ça vous donne envie de partir.
On va en parler justement de ceux qui sont arrivés sur place. Mais j'ai envie de revenir à Madi aujourd'hui. Quand vous êtes arrivé par l'Italie?
Je suis arrivé par l'Italie.
Et comment vous êtes retrouvé à Paris?
Je suis resté en Italie quand même 6 mois pour demander l'asile là-bas. Parce qu'en fait, en réalité, ma destination, c'était pas obligatoirement de venir en France. À mon arrivée en Italie, j'avais demandé de rester là-bas, continuer avec mes études. Mais j'ai vu que ça va pas. Parce que quand j'ai demandé, ça a été refusé, ma demande d'asile, ça a été refusé. Un jour, je suis monté dans les trains, je suis venu à Paris.
Et quand vous êtes arrivé à Paris, avec le recul, est-ce que vous avez aimé ce que vous avez trouvé? Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez en partant de Bamako?
Non, pour la vérité, ça ne correspondra jamais à ça. Les voyages que j'ai faits et tout ce que j'ai vu, tous les gens que j'ai vus mourir et toute la fatigue que j'ai faite, tous les risques que j'ai pris, et je vis que ça ne vaut pas la peine.
Aujourd'hui, si c'était à recommencer, est-ce que vous recommenceriez?
Si c'est à recommencer le même voyage que j'ai fait, non.
Est-ce que vous avez dit ça à vos amis? Parce qu'on voit le nombre chaque jour augmenter de migrants, de jeunes qui veulent venir en Europe. Est-ce que vous leur avez dit, ça ne vaut pas la peine?
Oui, mais bien sûr. Déjà, comme j'ai eu la chance d'aller en vacances au Mali et tout, j'ai fait les retours au pays en 2020. Après, avec les amis, on est en train de monter une association pour faire sensibiliser ceux qui sont restés là-bas, de ne pas se dire un jour je vais partir. Le voyage que nous on a fait, c'est pas tout le monde n'a pas le même sens de réussir dans la vie. La chance que nous on a eu, on a perdu combien de personnes? C'est combien de personnes qui sont arrivées à destination finale? Et c'est combien de personnes qui dorment dans les rues de Paris? C'est combien de personnes qui galèrent devant les préfectures pour avoir les papiers?
Est-ce que vous avez vos papiers aujourd'hui?
Oui.
Vous avez vos papiers aujourd'hui?
Oui.
Est-ce que d'un coup vous vous dites, ma vie a changé, j'ai bien fait de venir? Ou est-ce que vous vous dites, peut-être que j'aurais dû rester à Bamako?
De rester à Bamako. Oui, mais comme j'ai dit, chacun a sa sens. Il y a un moment, par exemple, le moment que j'ai parti, je ne voyais pas tout ce qui allait se passer. Les voyages que j'allais faire, tout ce... par exemple, quand je quitte Bamako avant d'arriver à Gao, Bamako, c'est 1222 kilomètres. Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Je peux mourir, je peux perdre une jambe. Comme ça, je suis arrivé à Gao, bien passé. Mais arrivé en Libye, ça a été la misère. Comme il a si bien dit, en Libye, tu peux rentrer, mais tu ne peux pas sortir. C'est comme une prison.
C'est une prison. Une fois que vous avez mis les pieds en Libye, ça devient une prison. Merci beaucoup, Madi, d'être venu. Et puis, j'espère que votre association va prospérer et que d'autres vont vous écouter parce que votre expérience va permettre de ne pas commettre les mêmes erreurs, de ne pas penser qu'ici, c'est l'Eldorado que l'on raconte sur place. Merci en tout cas. Nous arrivons à la fin de la première partie de ce magazine. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Restez à l'écoute.
Le débat africain. Alain Foucault.
Ils ont décidé un jour de quitter leur famille, leurs proches, leur environnement, attirés par les lumières, les feux artificiels de l'Europe. Malgré les mises en garde, les risques encourus, ils ont pris le chemin du désert ou de la Méditerranée. Ils ont connu l'esclavage, la prison, le viol et toutes les humiliations. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré à ces rescapés du Sahara et de la Méditerranée qui sont sur ce plateau et qui nous racontent leur traversée et les leçons qu'ils en tirent. D'abord, Fatoumata Traoré, migrante d'origine ivoirienne qui a quitté la Côte d'Ivoire en 2017. Second invité de ce plateau, Abdoulaye Thiam, alias Calibri Calibro, migrant et activiste camerounais, fondateur de la BAS, la Brigade Anti-Sardinar, mouvement de l'opposition camerounaise. Notre troisième invité, qui nous a rejoint dans cette seconde partie, est Mitterrand Mardoché Momodonaya, écrivain camerounais et migrant. Son histoire a été racontée dans un livre, Moi migrant, publié aux éditions L'Harmattan. Bonjour Mitterrand Mardoché Momo.
Bonjour Alain, merci pour l'invitation.
Je vous en prie. Dans la première partie, on a parlé de ceux qui sont arrivés selon les différentes manières. Alors, vous, comment vous êtes arrivé ici?
Mon arrivée a été un peu différente de celui des autres. Je suis parti du Cameroun en avion, arrivé en Turquie. Mon but, j'allais pas en aventure, j'allais pour m'installer en Turquie afin de construire une vie, parce qu'au Cameroun, ça n'allait plus. Déjà, à partir du Cameroun, le monsieur qui m'a fait partie était un escroc. Qui m'a escroqué l'argent, il m'a pris de l'argent.
Ils sont tout le temps les escrocs, hein, parce que j'en ai pas trouvé un où on a dit ça s'est super bien passé. Donc il vous a pris de l'argent, vous êtes allé en Turquie.
Oui, arrivé en Turquie, ceux qui étaient censés m'accueillir étaient ses amis qui m'ont encore rançonné en Turquie pour me mettre dans une maison, dans une, comment je peux appeler ça, une sorte de bungalow où nous étions environ 19 dans une petite surface moins de 5 mètres carrés.
À faire quoi? Vous travailliez? Ils vous envoyaient travailler?
Il fallait travailler pour payer ces bungalows. Il fallait travailler pour payer la maison. Tu dormais sur une superficie. On dormait presque les uns sur les autres. Et il fallait payer 100 euros tous les mois. 100 euros tous les mois. Il faut payer à manger. Il faut. Ça, c'est pour un départ. Mais à un moment donné, on commence aussi à te rançonner. Il faut donner ceci, il faut donner cela.
Mais vous, dans votre cas, au-delà de la rançon, vous ne t'y es pas malmené physiquement?
En Turquie, je n'ai pas été malmené physiquement.
Qu'est-ce qui vous décide de partir de Turquie, puisque vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous attendiez?
Premièrement, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, et je ne sais pas si on va évoquer cette fois-ci ou pas. C'est des personnes qui sont en Europe, des personnes qui sont en France, qui vous vendent, des vendeurs de rêves, des vendeurs d'illusions, des personnes qui s'exhibent sur Internet après avoir emprunté des habits, après avoir emprunté des montres.
Qui louent des costumes, des montres, etc. Et vous donnent l'impression que tout marche bien ici.
Oui, pourtant ils dorment dans la rue. Et à un moment donné, tu t'es dit, ici je souffre, ici les Turcs me font porter... un sac de ciment pour grimper au 4e étage. Et
pourquoi je n'irai pas là-bas?
Que faire?
Peut-être que j'aurai les mêmes costumes, les mêmes chaussures.
Peut-être une vie autrement. À un moment donné, je suis même sorti de ces bungalows, je dormais devant les mosquées où je mangeais.
Mais une fois que vous avez vu que c'était si compliqué, ça ne vous est jamais venu à l'esprit de dire, bon, peut-être que je vais quand même rentrer à la maison? Parce que j'ai vu des personnes qui disaient, mes parents vont me tuer si je reviens, puisqu'ils ont cotisé pour que je parte et que je ne peux pas revenir sans un sou. Vous n'étiez pas dans cette situation-là?
Je vais rejoindre
Calibri.
Calibri, c'est pas du tout évident. Psychologiquement, c'est pas faisable. Il y a ça de un. C'est déjà un problème psychologique. Et ensuite, retourner au pays,
c'est un échec.
Pas forcément l'échec. Ça peut dépendre aussi des conditions pour lesquelles on est parti. Si tu es parti fuyant la dictature, fuyant tout ce que nous connaissons chez nous, imaginez un anglophone camerounais qui réussit à sortir du pays aujourd'hui, il ne peut plus retourner. Il y a ça de un, de deux, et il y a aussi le
fait que... En raison de la guerre dans le Nozo, qui est la région anglophone du Cameroun.
C'est ça. Il y a aussi le fait que le plus souvent pour partir, on s'endette.
Oui, c'est pour ça que je dis, retourner, les gens s'endettent pour partir. Et Calibri disait, on ne peut pas tous faire du commerce, mais il y en a qui se sont endettés, qui auraient pu faire du commerce sur place, ou qui auraient pu monter une affaire sur place, qui ont préféré partir avec l'argent. Donc, ce n'est pas toujours la même situation.
Monsieur Foucault, c'est très facile encore, je le dis. La jeunesse en Afrique, et au Cameroun particulièrement, ne vit pas. Je le redis et je vais le redire, elle survit. Nous avons des chefs d'État qui ne pensent pas au peuple. qui pensent
est-ce
à eux-mêmes.
Est-ce que ici, cette jeunesse qui est arrivée ne survit pas? Est-ce que c'est pas beaucoup plus grave?
C'est difficile, mais ici, on a une perspective d'avenir qu'on n'a pas au Cameroun, qu'on n'a pas au Mali, qu'on n'a pas au Sénégal. Pourquoi? Aujourd'hui, moi, j'étais auditionné devant l'Assemblée nationale et je leur ai dit, c'est bien beau de s'attaquer à la crise migratoire. Si vous ne vous attaquez pas aux causes de la crise migratoire, on va tourner en rond. Il faut s'attaquer aux causes. Pourquoi est-ce que la jeunesse africaine quitte l'Afrique? C'est la véritable question qu'il faut poser. Pas vouloir nous culpabiliser. Non, nous ne devons pas culpabiliser parce que nous avons fui une dictature. Et dans 14 pays africains, c'est la dictature. C'est l'essence même de l'immigration. Il y a la guerre, oui, et il y a aussi la dictature. Partout où vous allez voir la jeunesse partie, c'est parce qu'il n'y a pas d'espoir.
Et en même temps, il peut y avoir un certain nombre qui partent pour des raisons liées à la dictature, mais il y en a aussi qui, comme le disait à l'instant Mitterrand, qui regardent leurs copains, qui leur montrent des images, qui leur donnent l'impression que tout va bien ici. Ils sont un certain nombre, ceux-là aussi, non, Mitterrand?
Oui, il y a...
Ils sont un certain nombre.
Qui vendent
des rêves.
Mais il y a quelque chose d'intéressant, pour rejoindre Calibri, personne ne pas de chez lui de gaieté du cœur. Personne ne peut se lever et dire « Ok, il est temps, je dois partir. » On part parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On part parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir, à joindre les deux bouts. Ça, c'est la chose principale, le dénominateur commun qu'il faut regarder sur toutes les causes du départ. Il y a ça de un, et par la suite, il y a l'ignorance de ce qui nous attend. Parce que si un temps soit peu, j'avais soupçonné que je devais me retrouver en train de marcher 5 jours dans la forêt, je devais me retrouver en train de traverser sur les cadavres de mes frères et sœurs qui sont morts dans la forêt de l'Est, je ne serais jamais parti.
Quand vous dites l'Est, c'est-à-dire l'Europe de l'Est,
la partie l'Europe de l'Est, parce que je suis passé par l'Est, il n'y a aucune mère, aucun père qui peut accepter, voyant tout ce qui se passe, voyant tous ces morts de la Méditerranée, parce qu'il faut avouer une chose, il n'y a pas encore de télé. On ne montre pas suffisamment toutes ces images chez nous. C'est pour ça que je salue vraiment ces genres d'émissions. Si on peut multiplier des représentations comme celui-ci, ça sera une très bonne chose. Il faut aller parler en Afrique. Il faut même aller réaliser dans des universités chez nous, dans des écoles primaires pour préparer les éventuelles personnes qui... Mais... Avant ça, d'abord, il faut que la politique soit qui est vraiment
une c'est d'abord une question politique.
Il faut que les dictateurs qui sont là, qui dégagent et qui laissent place à ceux qui peuvent construire l'Afrique, nos peuples n'iront plus mourir dans la Méditerranée, comme c'est le cas actuel.
Ma question va être mal perçue, mais c'est la question qui revient souvent dans les réseaux sociaux. Ceux-là ont fui. Ils ont fui, ils n'avaient qu'à rester pour se battre avec nous. Calibri, on vous a certainement déjà dit ça.
Oui, on me l'a dit. Ceux qui sont restés, qu'est-ce qu'ils ont? Ils se sont battus jusqu'où, Monsieur Foka? Il y a un enfant, depuis que je suis passé à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de familles qui m'appellent pour que j'essaie de dissuader leur enfant. Quand vous avez un enfant qui vous dit « Ma maman a 65 ans, j'en ai aujourd'hui 35 et c'est encore elle qui me donne l'argent des beignets. » Comment est-ce que je peux dire à cet enfant que tu ne pars pas? J'ai essayé de parler à cet enfant.
Mais en lui disant tout simplement que bon, ce que tu vois, tes copains qui t'envoient des images, ils te mentent.
Je lui ai montré tous ces enfants qui vivent sur les ponts. Vous savez ce qu'il m'a dit? Vaudrait mieux quitter ce pays et avoir un espoir, même si je vais mourir, que de mourir dans la galère dans ce pays.
Mais c'est quand même grave de penser qu'on préfère la mort plutôt que de rester dans l'endroit qui vous a vu grandir.
La survie est importante.
Fatoumata, vous aujourd'hui, si on vous disait de retourner à Abidjan, vous accepteriez ou pas?
Non.
Non, hein?
Non.
Vous ne pouvez pas accepter. Vous êtes mieux finalement alors ici?
Un peu.
Comment ça? Racontez-nous. Vous avez vos papiers aujourd'hui?
Non.
Vous n'avez toujours pas vos papiers?
Non.
Est-ce que c'est une vie de passer son temps à fuir lorsque l'on voit la police? Est-ce que vous n'êtes pas mieux lorsque vous pouvez vous déplacer tout à fait normalement?
Bon, ici est mieux par rapport à pays maghrébiens, Tunisie, comme Maroc. Parce qu'ici, même si tu n'as pas papier, même si tu ne travailles pas, tu as la paix du cœur. Donc c'est bon.
Tu arrives à travailler?
Je n'ai pas de papiers, je ne travaille pas.
Tu ne travailles pas. Mais comment alors tu t'en sors? Comment tu manges? Comment tu vis au quotidien? Comment tu payes ton loyer?
C'est pas facile.
C'est pas facile. Non. Mais il y a des gens qui vous emploient au noir, je suppose.
Oui.
Est-ce que vous arrivez à envoyer de l'argent à vos deux enfants au pays?
Non, pas encore. Plus que je n'ai pas de papiers. Donc, depuis que je suis arrivée, je n'ai pas encore envoyé de l'argent.
Ça fait combien de temps que tu es là?
Depuis 2019.
2019.
Fin 2019, 10e mois.
Et que disent les parents au pays quand ils se disent « Elle est là-bas en Europe, elle ne nous envoie pas de l'argent. » Puisque c'était ça le but, partir et aider ceux qui sont restés.
Mais, alhamdoulilah, moi je suis bien rentrée. Ceux qui sont restés, ils vont dire quoi? Ceux qui sont restés dans la Méditerranée, Donc si et si là, tous les coups, je sais que je dois avoir papier, Inch'Allah. Mmh. Donc ça va aller.
Vous avez entrepris déjà les démarches pour avoir vos papiers?
Oui, je suis dans l'île.
Vous allez les obtenir, on vous a promis ça?
Pas encore. On est dessus, mais on ne m'a pas encore répondu.
Alors quand on arrive comme ça et qu'on n'a pas les papiers, comment on vit? Est-ce que vous avez un loyer que vous payez? Est-ce qu'on vous fait un bail? Ou bien vous vivez chez quelqu'un en sous-location?
Je suis dans une colocation.
Vous êtes en colocation?
Oui.
Donc vous ne pouvez rien faire. Quand vous êtes malade, comment vous vous soignez?
Bon, je vais au CMI, mais c'est permis, ils n'ont pas encore renouvelé.
Le CMI,
si je suis malade, je m'en vais à l'hôpital et puis je me soigne.
On vous soigne. Oui. C'est la chance en France, par contre.
Oui.
Parce qu'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça.
Oui.
C'est très différent.
Oui.
Alors, ma question est la même à peu près. Aujourd'hui, Mitterrand, vous avez vos papiers, finalement, vous êtes installé, on vous a donné votre résidence?
Oui, j'ai mes papiers, ça va. Ça va pour le côté administratif. Oui.
Et aujourd'hui, est-ce que ce qui vous a animé, recommencer votre vie, aider votre famille, vous y arrivez? Est-ce que votre objectif est finalement atteint?
Moi, personnellement, mon objectif ne peut pas être atteint tant que je regarde la télé chaque jour. Il y a des millions de morts. Il y a mes frères qui se noient dans la Méditerranée. Je suis très attaché à l'humain. Je suis très attaché à mon continent. Je suis très attaché à l'être humain en général. Donc, je suis très attaché à mes frères. Je ne peux pas être à l'aise tant que je sais que si ma mère tombe malade au pays, elle ne peut pas être bien soignée. Je ne peux pas être à l'aise, mon objectif ne peut pas être atteint tant que mes frères ne vont pas à l'école, tant que mes frères n'ont pas de perspective.
Ça, c'est l'idéal. On rêve tous de cet idéal-là. Oui. Mais vous-même, aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'apporte mon aide à ceux qui sont là-bas?
On ne se remet jamais de ces parcours. Ça, c'est quelque chose, c'est une évidence. Mmh. On ne peut jamais se remettre de 1 an 8 mois, 1 an 5 mois, de parcours dans la forêt, le désert, étant donné qu'on a été humilié, on a été détruit, on a perdu toute son existence comme être humain, on a été tabassé, on a été lavé au cachet, comme nous.
Ah, on vous lavait aussi au cachet?
Au cachet.
Ouais. Parce que vous étiez trop sale.
En Bulgarie, quand on a fait des prisons, parfois sans savoir pourquoi.
Vous avez été combien de fois en prison?
Chaque frontière que tu traverses, tu as droit à une prison. Avant de demander l'asile, j'ai fait la prison en Bulgarie, j'ai fait la prison en Hongrie, même en France, j'ai fait le centre de rétention pour un très peu de temps, mais c'est quand même pas évident de dire que l'objectif est atteint, d'être à l'aise, étant donné que tu as vécu tout ça. J'ai la trousse au pied, je boite.
Ah, vous boitez,
donc on ne se remet jamais.
Les séquelles de cette traversée.
C'est ça.
Vous avez des enfants aujourd'hui?
Oui.
Combien?
J'en ai 2.
Et ils sont ici avec vous? Vous avez réussi à faire le regroupement familial?
Pas encore.
Pas encore.
Pas encore.
Calibri Calibro, dans votre cas, on ne peut pas envisager que vous repartiez, puisque votre activité politique vous condamne de fait, n'est-ce pas? Si ça vous venait à l'esprit, ce serait aller directement en prison. Alors, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous pensez que c'était une bonne décision de venir?
J'ai une perspective d'avenir. Oui, je pense que c'était une bonne décision de venir. Malgré le risque, c'est vrai, Mitterrand l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas se remettre. Jamais de ma vie, je n'oublierai ce que j'ai vécu. Mais je pense que c'était une bonne décision. Quelle que soit, comme on dit chez nous en Afrique, la durée de la nuit, le jour finira toujours par apparaître. J'ai une perspective d'espoir. Je me dis que d'ici 1, 2, 3, 4 mois, je pourrais avoir une formation, ce que les jeunes n'ont pas en Afrique. On revient encore à ce problème-là. Pourquoi les jeunes quittent l'Afrique? Est-ce qu'ils ont une formation? Quand vous avez des chefs d'État, quand vous avez des ministres, des directeurs généraux qui, pour un panari, préfèrent prendre un avion pour venir se faire soigner, est-ce qu'on croit que dans un pays pareil, il y a une perspective d'avenir? Quand le peuple est délaissé, tout le monde va vouloir partir. Et je peux vous assurer... Essayez de faire un test. Dites demain que les visas sont gratuits et vous allez voir une queue énorme. Vous n'allez pas en revenir. Essayez de faire un test. La jeunesse a cette volonté de partir, mais quelque part, elle est un peu freinée. Et c'est aussi là mon rêve aujourd'hui. C'est de réaliser soit un documentaire, soit un film pour montrer réellement ce qui se passe. Parce que c'est bien beau de faire des émissions. Tant qu'on n'a pas vu en réalité ce que nous vivons, je ne pense pas que la jeunesse africaine prendra conscience. Le désert fait extrêmement plus de morts que la Méditerranée. La Méditerranée, c'est la face visible
de
l'iceberg.
Visible, tout à fait.
Mais il y a des milliers de Camerounais. Et je rends hommage à la famille de cette sœur camerounaise qui est partie, qu'on a vue il y a quelques semaines.
Oui. C'est qui agonisait dans le désert et que ceux qui étaient avec elle, ses compagnons de traversée, étaient obligés de l'abandonner là parce qu'ils avaient déjà passé quelques jours sur place et qu'elle ne pouvait pas guérir. Elle était sur le point de décéder, ils ont filmé. Ils ont distribué sur les réseaux sociaux et elle est finalement décédée dans le désert toute seule. Sa famille a assisté, malheureusement, en direct.
Je salue cela parce que généralement, Monsieur Foucault, généralement, on ne s'occupe même pas de vous. Même votre propre frère, et j'en ai vécu, un frère qui a été obligé d'abandonner son frère parce qu'il voyait le guide parti. Une fois que le guide a pris son chemin, il ne se retourne pas. Si tu ne suis pas, tant pis pour toi, tu es perdu au désert et tu es mort. Je salue encore ses frères et je tiens à dire à mes frères camerounais africains, c'est bien beau, vous allez nous dire, vous êtes arrivés. Mais sur 1000 personnes qui partent, il y a peut-être 50 qui arrivent. La majorité reste. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Je pense que la communauté internationale aussi doit pouvoir aider l'Afrique en nous débarrassant de ces dictateurs. Et aussi, la jeunesse africaine doit prendre conscience que c'est à elle aussi de se battre pour faire partie de ces dictateurs. Il nous faut avoir des hommes qui pensent plus au peuple qu'à eux. Le jour où on aura ces hommes-là, on pourra bâtir ensemble l'Afrique. Je serai prêt à retourner et chacun d'entre nous. Je ne peux pas vous mentir que s'il était demandé aux milliers d'Africains, aux millions d'Africains qui sont en Europe de rentrer chez eux, si les conditions sont mises sur pied, il n'y en a pas un qui va rester.
Justement, vous anticipez sur la question que je voulais poser. Fatoumata, qu'est-ce qu'on peut vous donner pour que vous décidiez de rentrer à la maison aujourd'hui? Si on vous disait, Fatoumata, est-ce que tu veux rentrer à Abidjan? Qu'est-ce qu'on te donne pour que tu rentres à Abidjan? Qu'est-ce que tu accepterais, dis-moi? Alors dis-moi, allez, quoi?
Je suis venue, je n'ai rien d'abord. Et puis tu vas me donner une somme, je vais me retourner.
Qu'est-ce qu'on te donne? Combien?
Allez. Combien d'euros?
Allez Fatoumata, combien? Si je te dis aujourd'hui, allez, je te donne 50 000 euros. Tu rentres.
C'est
ah,
petit.
Bon, c'est petit.
Oui.
Hein? Mais tu ne gagnes rien ici. Non, mais on te dit, on te met dans un avion. On te dit, allez, Fatoumata, tu souffres beaucoup en France. Hein? Tu es en sous-location, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de papier.
Oui.
Fatoumata, voilà 100 000 euros. Rentre à Abidjan. Tu vas faire ton commerce avec.
100 000 euros. Je ne veux pas accepter.
Mais je ne comprends pas. Tu es malheureuse ici. On te donne 100 000 euros. Tu ne veux pas rentrer.
Mais tu me donnes mes papiers d'abord. Il faut que j'aie mes papiers et puis je rentre.
Ah, c'est une affaire de papier. Mitterrand, vous vous êtes déjà installé, vous avez vos papiers, donc la question ne se pose pas. Mais pensez-vous que si on faisait une politique qui permettait aux gens de repartir avec un peu de pécule au pays, ils rentreraient? Pour ceux qui ne sont pas dans la situation de Calibro qui, s'il arrive, va prendre les menottes tout de suite, mais ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, pensez-vous que c'est une question d'argent aussi?
Moi, personnellement, moi, j'ai tellement établi pas mal de choses ici que ça sera difficile pour moi.
Que votre vie est ici. Alors, voilà.
Ma vie est partout dans le monde en ce moment. Je suis prêt à aller en Afrique travailler pour l'évolution de l'Afrique. Je suis prêt à travailler ici. Je suis prêt à aller partout. Ça sera difficile pour moi de dire, OK, j'abandonne tous ces gens qui m'aiment et qui m'ont accueilli, qui m'ont tout donné pour retourner.
Bien. Même ceux qui sont là-bas vous aiment, vous accueilleraient et seraient contents que vous reveniez. Mais je ne vais pas poser la question à Calibri parce qu'il n'a pas le choix.
J'aurais aimé répondre à cette question. J'aurais aimé esquisser une petite réponse. Pour moi, c'est une question un peu facile à poser. Oui, on va me donner 100 millions, 65 millions, je veux rentrer dans quelles conditions?
Oui, mais là, on va repartir en politique. Là, je savais que si je posais la question, on repartirait là-dedans.
Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien.
Bon, je savais qu'on repartirait là-dedans. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté de venir en débattre. C'est très courageux parce que personne ne voulait venir parler. Certains avaient l'impression qu'à la sortie ici, il y aurait la police pour leur mettre les menottes et les amener directement à l'aéroport. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. La marche du monde.